Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de Mastin et Silly. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le Champs-Élysées Film Festival jour 2. Aujourd'hui, on va parler de trois films, voilà, donc il y a plutôt du pain sur la planche, donc on va pas tarder. Et on va tout de suite commencer avec le premier film, à savoir Les Mignons 2 de Kyle Balda.
Il y a plein d'autres méchants dans le monde, mais moi je vais être un super méchant. Ce petit gamin tout gringalé pense qu'il peut faire un bon méchant.
Je peux être hyper méchant.
Alors Les Mignons 2, donc film spin-off de la saga Moi Moche et Méchant. Le premier film Moi Moche et Méchant qui n'est pas réalisé ou co-réalisé par Pierre Coffin, voilà. Donc le réalisateur Kyle Balda l'avait déjà accompagné sur Les Mignons 1 et sur Moi Moche et Méchant 3, que je n'ai pas vu pour le coup, le dernier Moi Moche et Méchant. Mais bref, toujours est-il que c'est la première fois que Pierre Coffin n'est pas là. Pierre Coffin, je pense qu'on dit d'ailleurs. C'est d'ailleurs lui qui fait les voix des Mignons, voilà, petite anecdote, si vous ne le saviez pas. Et donc, Les Mignons 2, de quoi ça parle? Alors que les années 70 pâtent leur plein, Grou, qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d'ef et des chevelures en fleurs, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants connu sous le nom de Vicious Six, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Mignons, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles, mais tout va changer le jour où Grou décide de voler une pierre à ce groupe de méchants et qu'il se fait ensuite enlever. Voilà, donc somme toute un pitch assez classique finalement. Voilà, c'est classique de films d'animation pour enfants entre guillemets. Enfin oui, on va en parler, mais voilà, oui, c'est clairement un film pour enfants. Je pense qu'il n'y a pas d'autre but. Parce que oui, le moins qu'on puisse dire sur Les Mignons, bah, c'est que c'est pas très bien. Voilà. Bon, j'avoue que j'en attendais pas grand-chose. Enfin voilà, je me suis dit, bon, c'est une séance en avant-première dans le cadre du festival. Autant y aller, tester, voir ce qui se passe. Et puis bon, on sait jamais. Voir un film comme ça, où bon, bah, on se dit que c'est un truc un peu plus tranquille, où on pose le cerveau, où on regarde et on prend juste du plaisir. Ouais, ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien. Maintenant, bah, le plaisir n'a pas trop été au rendez-vous. Voilà. Alors déjà, c'est un film qui a l'intelligence de ne faire qu'une heure et demie. Oui, c'est ça, qu'une heure et demie. Ce qui est déjà, je vais pas dire, voilà, enfin, bon, c'est très intelligent, parce que je pense que si le film aurait fait plus, ça aurait été très compliqué à tenir, vraiment. Déjà, scénaristiquement, je trouve que à beaucoup de moments, ça rame, en fait. Mais ça rame à un point vraiment où à un moment on se dit mais faut avancer quoi. Y a des facilités scénaristiques mais énormes. Après je sais que c'est pas le but. C'est comme je le dis, hein, pour moi le film est là parce que bon on sait que c'est Les Mignons, que les enfants vont vouloir y aller, qu'ils vont aimer, que les parents vont aimer leurs gosses et que ça va faire des entrées. Voilà, on est clairement ça dans le but du film. Maintenant si on essaye d'analyser ça comme un film... C'est vrai que c'est pas bien, sans intérêt, je dirais même. Bon, après, en général, les spin-offs, pour qu'il y ait un intérêt, il faut essayer de voilà, il y a du travail, quoi. Et le truc étant que pour moi, avant tout, on a un problème scénaristique qui va au-delà même de l'intérêt, parce que bon, un film sans vraiment d'intérêt premier, ça pourrait passer. Mais là, ouais, il y a cette histoire avec la pierre et le truc des méchants. Mais cette histoire, moi, ce qui me chiffonne avec la pierre, c'est toute la partie où le mignon Otto essaye de la récupérer. Ça, c'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est ça qui me saoule un peu, c'est qu'au scénario, il n'y a pas d'effort. Là où les moins moches et méchants, je trouvais ça assez rigolo, il y avait des trucs assez bien amenés, où je passais un bon moment devant. Là, je trouve qu'il n'y a pas, il y a pas ce que je... Ouais, je retrouve pas ce que j'ai aimé dans les Moi Moche et Méchant. Les Mignons 1, dans mes souvenirs, c'était pas bon non plus. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le truc d'avoir un gros enfant, c'est pas mal. Ça montre d'où il vient, etc. Ça peut, c'est sympathique. C'est un des aspects de l'histoire que j'ai pas mal aimé. Maintenant, après, je vais pas vous dire que j'ai passé un moment horrible, etc. Hein. Bon, rigoler est un bien grand mot. J'ai pouffé du nez quelques fois. Enfin, voilà, y a des trucs assez sympathiques. Même dans l'animation, il y a des moments pas dégueux. Voilà. Mais ouais, pour moi, ce qui pêche, c'est ce scénario-là. Ce scénario qui fait que, bah, je sais pas, il n'y a jamais vraiment de véritable enjeu dans le film, sauf à un moment, sauf que bon, voilà. Et puis, aussi, ouais, je sais pas, pour moi, c'est trop facile scénaristiquement. Je veux bien qu'il y ait des raccourcis, voilà, qu'on soit dans un truc justement, un truc d'animation pour enfants, parce que là c'est le cas, et qu'il y ait des raccourcis, ça me dérange pas, c'est normal. Mais là, c'est trop raccourci en fait, il y a trop de trucs qui font que, bah non, ça marche pas. Et ouais, je dirais pas que c'est des incohérences, mais ouais, quoi, enfin. C'est pas des incohérences, mais non, c'est des facilités. Voilà, c'est des facilités. Et puis on va venir au second gros problème. Alors ça, bon, c'est indépendant de la VO, puisque moi je l'ai vu en VF, étant une séance principalement destinée aux enfants. Et la VF, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, oui, bah il y a Gru, enfin Gad Elmaleh en Gru. Après ça, voilà. Gérard Darmon qui s'en sort pas trop mal. Mais après, le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense surtout à Claudia Tagbo, qui, pour moi, c'est une erreur de casting monumentale. Ça ne colle pas du tout, en fait, Claudia Tagbo, pardon, avec son personnage de méchante. Pour moi, ça ne colle pas du tout. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, déjà, il y a une erreur de casting à ce niveau-là. Et puis après, ouais, c'est du basique. J'ai quand même été content d'entendre Jonathan Cohen. Dans le rôle du docteur Nefario, voilà. Mais bon, docteur Nefario, il est gentil, mais il a trois scènes, quoi. Donc Jonathan Cohen, on l'entend pas beaucoup. Mais ouais, sinon, pour moi, il y a quand même de l'erreur de casting, voilà. Je trouve qu'il y en a pas mal. Donc voilà. Après, les autres méchants, je me suis pas attardé sur qui faisait les voix, etc. Mais c'est dans la moyenne, quoi. C'est pas incroyable, mais voilà. En tout cas, ouais, je pense que le film aurait été bien mieux, en tout cas la VF bien mieux, sans Claudia Tagbo. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus dérangé. Déjà au début, je comprenais pas du tout ce qu'elle disait. Voilà. Donc c'est quand même problématique quand on comprend pas ce qu'un personnage dit. Mais ouais, sinon, c'est du classique. Je pense que j'aurais préféré le voir en VO. Voilà. Puis je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce film. De toute façon. C'est pas forcément là-dessus que j'avais envie de plus développer, vu les deux films que j'ai vus derrière. C'était une manière peut-être un peu décevante de commencer la journée et les films au festival. Voilà, ça a été vite comblé par les deux autres films que j'ai vu ensuite, vous le verrez. Enfin, je vais vous en parler du coup. Voilà. Et on va tout de suite passer au deuxième. Alors, je ne sais pas s'il y a une bande-annonce. Hein. S'il y a une bande-annonce, je le mettrai. Sinon, bon, bah, j'enchaînerai tout de suite. Mais on va passer à Atlantic Bar de Fanny Mollins.
Oui, Rose. Il y a un gros souci au bar.
Je vous ai fait parvenir le 6 juillet 2021 un courrier vous informant de la mise en vente de mon bar Atlantique à Arles.
Vous n'êtes pas propriétaire, c'est ça le problème.
On est des petits bourrins, eux, c'est les riches sans respect, sans rien.
Donc, de quoi ça parle Atlantic Bar? Je vais vous lire le synopsis. Donc, à l'Atlantic Bar à Arles, Nathalie, la patronne, est le centre de l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après l'annonce de la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d'un lieu à la fois destructeur et vital. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez compris lorsque j'ai lu ça, mais on est sur un documentaire. Voilà, on est sur un documentaire donc sur ce bar et comme vous l'avez entendu, il y a une histoire de mise en vente du bar. Voilà. Donc pour moi, c'était sur ça que le documentaire était axé. Parce qu'on a eu, pas mal de documentaires qui, si vous voulez, sont un peu au service d'une cause, entre guillemets. Je pense à notamment Douce France, qui suit des jeunes qui se battent pour qu'une énorme zone commerciale destinée aux loisirs, etc., ne soit pas implantée près de chez eux. C'est dans le 93, il me semble. Pour que ça puisse préserver des espaces verts. Enfin voilà. Et donc il y a eu un documentaire là-dessus qui s'appelle Douce France. Alors loin de moi l'idée de critiquer Douce France parce que c'est un documentaire que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, enfin c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on retrouve justement ce truc de servir une cause en fait. Voilà. Parce que c'est vrai, le documentaire, ça offre de la visibilité. Et donc, soit donc la situation est réglée dans le documentaire et dans ce cas-là, ça fait une super fin et voilà. Soit la situation n'est pas réglée. Comme c'est le cas pour l'Atlantic Bar. Et donc du coup, le documentaire permet d'offrir de la visibilité et pourquoi pas de régler la situation. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, c'est ce qui va se passer à l'Atlantic Bar. Il me semble qu'ils sont pas loin de pouvoir acheter le fonds de commerce, donc que Nathalie va continuer, Nathalie et Jean-Jacques vont pouvoir continuer à rester dans leur bar. Donc ça c'est super. La réalisatrice, donc on a eu un échange à la fin avec elle. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout comme ça que j'ai ressenti le film. Et elle, en fait, elle nous a dit que son but, c'était plutôt de faire un film sur l'alcoolisme. Voilà. De faire un film sur l'alcoolisme. Et oui, il y avait une volonté, en prenant ce personnage central de Nathalie, de faire un film sur l'alcoolisme, en particulier chez les femmes. Et c'est marrant parce que pour moi, le thème du documentaire, c'était justement cette fermeture qu'il fallait éviter. Et en fait, elle nous expliquait que c'était qu'au moment où elle avait commencé à tourner, c'était pas sur la table et que c'est arrivé deux jours après le début du tournage. Et que donc, du coup, ça a été inclus au documentaire. Mais qu'à l'origine, faire ce documentaire n'était pas du tout... Enfin, c'était pas lié à ça. Et donc, ça m'a assez étonné parce que pour moi, c'était le thème central. Et c'est justement ce que j'aimais, même sur ce documentaire, pas que ce soit le thème central, mais que justement, ça arrive à aller plus loin que ça. Parce que généralement, donc, c'est vrai que je parlais de Douce France, mais voilà, il y en a d'autres. Mais c'est vrai qu'on est, quand il y a justement un documentaire à cause, on est focalisé que sur ça. Là... c'était même pas, je sais pas si ça passe au second plan, mais en tout cas il y a beaucoup de surtout on se concentre encore une fois et ça va être peut-être le maître mot de ce festival, je ne sais pas, on se concentre beaucoup sur l'humain et donc tous ces gens qui sont là, que ce soit Nathalie, que ce soit Jean-Jacques qui tiennent le bar ou que ce soit les gens qui sont habitués, voilà, il y a beaucoup de portraits qui sont faits, notamment voilà, pour Nathalie et Jean-Jacques, c'est vrai que c'est des choses assez bouleversantes parce qu'ils ont eu des vies vraiment pas faciles. Et le fait qu'ils arrivent à se confier comme ça face caméra, ça donne quelque chose justement qui est assez puissant. Où, ouais, vraiment, le fait qu'elle soit vraiment en train de raconter, par exemple, il y a une histoire où elle raconte que son frère est mort dans ses bras à l'hôpital, le fait qu'elle arrive à en parler, et je pense que, et la réalisatrice nous en a parlé, il y a eu un vrai travail de où ils ont appris à se connaître les uns les autres, entre la réalisatrice et l'équipe et les gens du bar, et donc il y a une vraie relation de confiance qui s'est établie et ça se sent, et du coup on sent qu'ils sont absolument libres de parler de ce qu'ils veulent, et que c'est des thèmes graves, pas faciles à aborder, mais qu'ils arrivent bien à le faire, du coup, voilà, en raison de, je pense, cette relation de confiance qui a été instaurée, et ça, bravo, chapeau à la réalisatrice, parce que c'est pas le cas tout le temps, des fois, au contraire, les réalisateurs vont plutôt brusquer les gens pour qu'on en parle de choses, je ne vise personne, c'est très faux, je vise Claude Lanzmann dans Shoah, par exemple, où on a l'impression qu'il martyrisait un peu les rescapés des camps d'Auschwitz, voilà, pour les pousser à parler. Là, ici, non, c'est quelque chose de très doux, très humain, Et donc, du coup, ça rend vraiment la chose très touchante. Et j'avoue que ça m'a. Ouais, ça m'a. Ça fait beaucoup de bien, en fait, au cœur de voir un truc aussi touchant, aussi humain. Et c'est vrai que on se dit que c'est quand même une bénédiction, ce documentaire, parce que l'Atlantic Bar, si jamais il n'y avait pas eu ce documentaire, on n'en aurait jamais entendu parler. Enfin, voilà, moi, je connais pas du tout la ville d'Arles. Je sais que c'est dans le sud, mais c'est tout. Donc, justement, qu'on puisse découvrir ces personnes-là, que des fois, on s'intéresse à des personnes parmi tant d'autres, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à notre humanité, puisque c'est vraiment des personnes formidables. Nathalie, elle a une honnêteté, une franchise qui la rend très humaine, et tous d'ailleurs. Hein, y a ce double dispositif qui est très intelligent, où ça utilise l'architecture du lieu, où on est dans un truc où il y a les scènes qui se passent en bas, dans le bar, où on est dans des scènes un peu communes, où il y a tout le monde qui arrive à parler, à échanger, à rigoler, etc. Et il y a plutôt des scènes où on est, comment dire, dans les étages au-dessus, et où c'est justement ces interviews face cam. Donc il y a ces moments où on laisse la caméra tourner en bas pour voir ce qui se passe, et donc de voir comment ça vit, comment l'endroit vit. Et il y a donc les scènes en haut où c'est plus les interviews face cam. Et ça a une particularité, c'est que c'est filmé intégralement en 4 tiers. J'ai pas demandé, même si on peut poser des questions, parce qu'après, j'étais pressé parce que je devais aller au film suivant. Mais le 4 tiers, il me semble que la réalisatrice l'a évoqué un peu. Elle l'a glissé très rapidement. Elle disait que c'était par rapport à son rapport à la photo, parce qu'avant elle faisait de la photo. Et donc, c'est vrai que bon, voilà, vous voulez reprendre les codes de la photographie. Maintenant, je pense qu'il y a un truc quand même intelligent qui joue sur le plan cinématographique avec le 4 tiers. C'est que du coup, ça accentue ce côté humain. On a cet espace, ce cadre qui du coup est beaucoup plus réduit, où donc on a, c'est l'image, à l'image tout est beaucoup plus concentré. C'est pas une grande image entre guillemets. Donc tout ce qui est à l'image va avoir de l'importance, et donc ça permet pour moi de faire ce cadre un peu plus resserré, et justement de donner ce caractère très humain, en fait, voilà, ce caractère très humain sur le bar de Nathalie et de Jean-Jacques et de ses habitués. Et j'ai bien aimé aussi qu'on s'intéresse beaucoup aux habitués, et qui est les habitués qui expliquent les histoires, etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui disait dans les questions, mais ils sont de très beaux comédiens, donc moi je voulais savoir comment vous les avez formés, etc. Enfin, comment ça s'est passé, ou je ne sais plus exactement ce que c'était la question, ou comment ils font pour être aussi à l'aise devant la caméra, ou quelque chose comme ça. Et la réalisatrice a dit, mais moi je n'ai rien fait. En fait, le truc, c'est que s'ils sont aussi naturels, aussi bien, c'est qu'ils ne jouent pas. Ce n'est pas des comédiens. Ils ne jouent pas. Et donc, ils ont garder ce naturel, cette authenticité, et ça se sent à l'écran. Et si à plusieurs moments il y a les larmes aux yeux, on sent que ça peut couler à tout moment, il y a aussi un vrai côté assez drôle avec certaines situations, certaines paroles qui sont dites. C'est des gens, somme toute, j'ai pas envie de dire classiques, parce que ils ont leur personnalité, ils ont leurs histoires, etc. Donc ça, tout ça, c'est pas classique, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, encore une fois, on en revient sur ce point-là, et sur ce point qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est avant tout un documentaire sur l'humain. Sur les relations humaines aussi. Et ouais, il y a ce truc de prendre les choses telles qu'elles sont à l'état pur à la caméra, et qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà. C'est comme After Yang, ça m'a fait beaucoup de bien de voir un film aussi humain. Et concernant donc le thème principal de l'alcoolisme, c'est vrai que il y a des choses très intelligentes qui sont faites. On en entend beaucoup, c'est ce qu'elle disait, c'est que ce qu'elle essayait de faire, c'est que par exemple, il y a des moments où on entend beaucoup les bruits du bar. Donc, tac, on remonte là-haut pour les interviews, on est un peu soulagé de ne plus avoir le brouhaha du bar, etc. Puis même, il y a beaucoup de plans qui sont faits en top shot sur des verres de bière qui sont en train de se remplir. Enfin, il y a tout aussi une imagerie qui est associée à ce thème qui vient compléter le témoignage de Nathalie, qui fait que au final c'est plutôt intelligent dans son traitement, plutôt intelligent dans l'image, plutôt intelligent dans son thème, même si ils se sont fait un peu rattraper par les événements et que à l'origine ça devait être un court métrage déjà, et que oui, donc oui, après il y a eu cette histoire de vente qui leur est tombé dessus, et ça a été un cataclysme pour eux, et donc forcément on l'a intégré au documentaire, mais c'est vrai que sans cette histoire de vente, je me dis que ça aurait pas fait le même documentaire, et donc c'est on voit bien, enfin des moments Nathalie laisse vraiment exprimer, enfin parler sa colère, où elle insulte les je sais pas qui exactement, enfin bref ceux qui l'obligent à vendre, et donc ouais, c'est vrai que il y a ces moments très touchants là aussi où on est marqué par justement, j'ai pas envie de dire la détresse, mais enfin ouais, peut-être un peu aussi de ces gens-là, et franchement merci à la réalisatrice, parce que ça a été un vrai moment de douceur, un vrai moment touchant, et c'est très bien filmé, le travail sur l'image est très beau, très très bien fait. Et Atlantic Bar, c'est un film assez impressionnant, c'est un très très bon documentaire que je vous encourage à aller voir. Il sort le premier trimestre 2023, on nous a dit, ils viennent de signer avec un distributeur grâce à la sélection, donc à l'Acide, à Cannes et aux Champs-Élysées Film Festival. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir quand ça sortira. Moi, je suis content de l'avoir vu ici parce que je me dis que je serais peut-être passé à côté si jamais je ne l'avais pas vu dans ce festival. Donc je suis très 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 heureux de l'avoir vu et je vous encourage fortement à faire de même. Allez, on va passer au dernier film qui était ma plus grosse hype de la journée d'hier, puisqu'on va parler du film distribué par Joker's Film, à savoir Nos Cérémonies de Simon Ritt.
Attends. J'ai vérifié le truc là que je te disais tout à l'heure. Une fois qu'on l'a fait il y a deux semaines, tu sais, quand t'es rentré du bal des pompiers, c'est jamais revenu aussi vite. Donc, arrête, je te dis là. On parle sérieux. On est téléphone.
Donc, Royan 2011, alors que l'été étire ses jours brûlants, deux jeunes frères Tony et Noé jouent au jeu de la mort et du hasard, jusqu'à l'accident qui changera leur vie à jamais. 10 ans plus tard, et désormais jeunes adultes, ils retournent à Royan et recroisent la route de Cassandre, leur amour d'enfance. Mais les frères cachent depuis tout ce temps un secret. Bon, alors, si dans le synopsis, on vous dit qu'ils cachent depuis tout ce temps un secret, c'est que il ne faut pas révéler le secret. Enfin, je pense, je vais regarder sur Internet s'il y a d'autres synopsis. Voilà. Si éventuellement il y a des synopsis où on révèle le secret pour voir si je peut vous en parler ou pas. Après, je pense que c'est mieux de rien savoir, moi j'en savais rien, et c'est vrai que je pense essayer de faire une critique sans spoil, même si à vrai dire c'est plutôt compliqué. Voilà, bon écoutez, on va essayer de pas parler du secret, donc voilà, c'est un film de genre, ce qui m'a fait plaisir. Le réalisateur, donc Simon Ritt, a dit que c'était pas son intention à l'origine. Mais c'est un film surtout qui est le thème de ce film qui est indéniable, c'est la fraternité. Les deux comédiens qui jouent les deux frères sont véritablement frères dans la vraie vie. Donc oui, c'est indéniable que le thème est la fraternité. Le réalisateur l'assume clairement, c'est ce qu'il essaie de faire. Maintenant, comment je pourrais argumenter autour de ça? Déjà, le thème, c'est la fraternité, mais c'est pour moi une des visions les plus exactes de la fraternité qu'on a eu l'occasion de voir. Rien que dans cette scène d'intro, les enfants qui joue et qui s'énerve un peu dans le sens où « Ah, t'es trop nul, etc. Je t'ai battu, machin. » Dans ce rapport-là, un peu de compétition, de trucs, ça c'était très réussi. Et puis cet amour fraternel qui est évoqué, c'est vrai que c'est assez spécial, évidemment. C'est assez spécial comme traitement. Le réalisateur, c'est vrai qu'il nous a prévenu au début, si le son ou l'image vous saute à la gueule, c'est un peu normal, c'est comme ça qu'on l'a voulu, etc. Donc on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on va voir en fait, qu'est-ce qui va se passer à l'écran, et au final c'était pas si, je n'ai pas trouvé ça si agressif que ça. Ça joue beaucoup, comme il dit, hein, en colorimétrie et sur le tournage on a beaucoup fait monter les curseurs, et je suis assez d'accord avec lui. C'est pas non plus intenable. On arrive très bien à regarder film, quoi. Voilà. Et donc, il est vrai que ce qu'il essaie de dire, c'est que il voulait pas que, même si ça reste quand même un drame, même s'il y a un gros côté fantastique. Donc il voulait pas que ce soit un truc assez avec une photographie morne un truc assez sombre, etc. Et il dit, moi quand je fais un film, je veux que ça pétille, que l'image respire et que les couleurs ressortent beaucoup, et c'est ce qui se passe. Les couleurs ressortent énormément dans ce film. Et il l'a dit lui-même hein, d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est assez, assez évident quand on le regarde. Pour moi, ça sert surtout à magnifier son sujet, parce qu'il y a quelque chose de comme il dit, qui touche limite à la tragédie grecque. Il l'a dit à l'origine, son but c'était de faire une tragédie, et la tragédie est bien présente selon moi. Les marques notamment de la tragédie, c'est d'inéluctabilité. C'est-à-dire que s'il doit se passer quelque chose, ça se passera. Vous avez beau essayer d'échapper à votre destin, ça va forcément arriver, c'est des marques de la tragédie. Et là, en soi, quand il retourne dans cet endroit où leur vie a changé à jamais en raison de l'événement de la scène d'intro, je vais le dire dès maintenant, donc si vous jamais vous voulez vraiment être vierge de toute chose avant de voir le film, n'écoutez pas ça. Mais bref, ça c'est vraiment la scène d'intro, donc c'est un spoil assez mineur. En gros, oui, donc comme c'est dit dans le programme, il joue au jeu de la mort et du hasard, et donc un des deux finit par mourir, et l'autre, en l'embrassant, réussit à le ressusciter. Voilà. C'est vrai que c'est une histoire un peu particulière, et on comprend le rapport à la mythologie grecque qui est évoquée. Ensuite, il y aura cette chose qui va affecter leur vie. Je ne vais pas dire comment, parce que voilà. Mais en gros, disons que à plusieurs moments, ce rapport entre vie et mort va être beaucoup évoqué, et il sera beaucoup lié à cet amour fraternel. Où il y a toujours ce... Et justement, ça permet de développer la complexité de ces amours, de ces amours fraternels, dans le sens où il y a différentes émotions qui passent, parce que bien sûr, les frères et sœurs, on les aime, mais il y a aussi des moments où ils nous énervent, ou etc. Mais c'est pas grave, c'est comme dans toute relation, comme dans les relations amoureuses, comme dans les relations amicales, comme les relations familiales aussi. Il y a forcément des moments où les gens peuvent nous énerver, etc. Mais ça change rien à l'amour qu'on a pour eux. Et donc là, ça pousse ce questionnement à son paroxysme pour moi. Ça va très loin, et justement ce rapport au fantastique. Et là justement, pour qu'on aille dans ce truc, assez avancé justement de cette relation. Et pour moi, ce qu'il essaye de faire donc, c'est de, en partie, je pense que clairement ce qu'il essaye de faire, c'est de mettre un genre au service de son propos, donc le genre du fantastique, et c'est ce qu'il arrive très très bien à faire à travers ce film. Pour moi, c'est vrai que le film aurait été compliqué. En fait, ça aurait été compliqué de pousser aussi loin ces questionnements s'il n'y avait pas eu ce rapport entre l'amour et la mort. Et donc du coup ce côté fantastique. Et donc en parlant d'amour, je vous l'ai lu dans le synopsis, il y a cette histoire donc avec cette Cassandre qui, lorsqu'ils sont petits, est la copine de Tony. Donc Tony, c'est celui, pour ceux qui n'ont pas écouté le spoil, c'est celui pour qui l'événement au début se produit, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc il y a son petit frère Noé, à un moment au début il lui dit « Mais tu veux pas... il dit à son petit frère, mais tu veux pas nous laisser quand on est avec Cassandre des fois. Enfin voilà, c'est ma copine et tout. Et il me fait, oui, mais moi aussi Cassandre c'est ma copine. Il dit oui, mais là c'est pas pareil. Cassandre c'est mon amoureuse. Et donc en fait, on voit que il y a ce rapport un peu enfantin où il se dit oh, c'est ma copine dans le sens c'est mon amie. Mais c'est assez clair qu'il y a peut-être plus de sa part, qu'il aime bien jouer avec elle, etc. Enfin, c'est des petits signes. Et donc, forcément, quand ils vont revenir, il y a cet amour qui donc, du coup, pendant 10 ans, n'a pas pu être exploité et qui, donc, va vouloir l'être. Voilà. Et il va y avoir, donc, ça va créer de la jalousie. Enfin, voilà, si c'est ces sentiments-là qu'il peut y avoir entre frères et sœurs et qui font que le personnage de Tony peut parfois même beaucoup partir en vrille au moment du film. Il y a aussi cette instabilité qui peut, après j'ai pas envie d'aller trop loin aussi dans des interprétations métaphoriques, etc., mais qui peut aussi symboliser l'instabilité de la vie voilà, hein, on l'a vu enfin on le voit au début de la première scène. C'est un, comment dire, c'est pas un jeu, mais il peut y avoir de la chance, du hasard, etc. Et c'est voilà, bref, passons. Mais tout ça pour dire concernant Cassandre, il y a un rapport intéressant au corps et au désir. Je pense que c'est ce qui a aussi voulu être montré. Voilà, le corps et le désir. Il y a des plans où des corps sont filmés en très gros. Voilà, et puis il y a une symbolisme du désir aussi à travers les sentiments. Dont on voit de comment certains personnages regardent d'autres personnages, etc. Donc, ouais, il y a ce truc axé sur le désir aussi. Et donc, ouais, c'est un film qui a finalement beaucoup de sujets, qui a en sujet principal la fraternité, certes, c'est indéniable, et c'est le sujet principal du film, et il le fait très bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le seul. C'est voilà, il y a toute cette chose, toute cette jeunesse, cette envie de vivre aussi qui sont exploitées. C'est vrai que enfin le réalisateur, il y avait un agent dans la salle et il a dit je sais que c'est compliqué d'obtenir des financements avec justement des jeunes acteurs comme ça parce que les acteurs n'avaient jamais joué avant pour la plupart. Donc comment on a réussi, comment vous avez réussi à financer ça? Et il a dit mais en fait moi c'était inconcevable et le film se serait pas fait si j'avais pas eu justement des acteurs aussi jeunes parce que j'allais pas prendre des acteurs de 30 ans pour faire des jeunes adultes. Et pour moi il y a aussi ce message là. Simon Ritz, il est pas très vieux, je sais pas quel âge il a, mais il est pas très vieux et ouais, il est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui est très vieux, Simon Ritz. Et forcément, il a un discours sur la fraternité, donc de par ça, parce qu'il a un frère qui est un peu plus jeune que lui, il nous a dit. Et mais aussi sur la jeunesse, parce que enfin, il y est encore concrètement. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un de vieux, Simon Ritz. Et donc ouais, il y a ce truc cette exploitation du désir, de cette envie de vivre, qui est aussi assez présente. Voilà, notamment dans l'amour et les relations sexuelles, oui, on peut le dire. Donc ouais, c'est un mélange de tout ça, nos cérémonies en fait. C'est vrai que je souhaite c'est, en fait, je vous avoue que c'est un peu compliqué de parler du film parce que ça m'a mis une belle claque. Je vous avoue qu'à la fin j'étais bouche bée en fait. Il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir reprendre mes esprits, etc. Et que ça m'a foutu une claque assez importante en fait, que je voyais pas venir, parce que c'est vrai que pendant une grande partie du film, jusqu'à un événement en particulier, j'arrivais pas à être impliqué émotionnellement dans le film et je me suis dit mais merde, c'est vraiment dommage parce que moi c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et en fait, passé cet événement, j'étais vraiment, ça y est, il y a eu le déclic qui fait que j'étais vraiment émotionnellement impliqué et qui fait que ça le film a créé des trucs en moi qui, enfin bref, qui sont partis assez assez loin et qui fait que j'ai fini un peu sur le cul et vraiment bouche bée. Y a pas d'autre mot, voilà, c'est assez impressionnant. Bref, pour essayer de synthétiser, pardon, parce que bon, c'est vrai que je m'égare un peu, mais en même temps le film est tellement dense, il y a tellement de sujets traités que enfin, voilà, ça vaut le coup d'en parler. Et il faut savoir que je parle des sujets qu'il y a dans le film, des thèmes du film, mais ce que j'ai pas forcément, enfin ce que je pense pas avoir forcément précisé ou insisté dessus, c'est que tout ce que je vous dis, tous les thèmes du film, ils sont traités, mais à chaque fois ils sont traités de la manière, j'ai pas envie de dire parfaite, même si ça peut coller en fait comme terme. À chaque fois, il y a une maîtrise impressionnante du sujet, une justesse dans ce qui est traité, et qui voilà, qui fait que le film est ce qu'il est et que c'est impressionnant, et que pour une première œuvre, pour un premier long métrage, c'est limite un tour de force en fait. Et Simon Reed, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer par la suite, parce que voilà, moi je pense que pour l'instant c'est mon plus gros coup de cœur de ce festival. Bon, après j'ai vu 4 films, donc enfin voilà, c'est encore long le festival, hein, y a encore pas mal de trucs à voir, mais bon, pour l'instant j'ai vu 4 films et ouais, c'est celui qui m'a le plus marqué et plus pour l'instant, voilà. Donc écoutez, allez voir Nos Cérémonies quand il sortira, c'est le 22 mars 2023 il me semble, c'est dans longtemps. Voilà, donc c'est vrai que moi je me ferai un plaisir d'y retourner parce que je pense que ça va me reclaquer la gueule. Il y a un vrai travail sur l'image qui est magnifique, les paysages naturels ils sont super bien choisis. Il y a un cadre voilà, dans le sud de la France qui est absolument, c'est splendide. Les couleurs, c'est un film voilà, très vif, malgré ce qu'il peut raconter, un film très vif, voilà, où ouais, on a... limite, enfin c'est pas limite, je pense que vraiment le curseur de saturation a été un peu poussé, voilà, et ça parle de thèmes assez universels, de fraternité, de mort, d'amour, surtout à la fin, pour moi il y a plus un propos où on va un peu peut-être plus enfin pas forcément délaisser l'amour fraternel, mais moins être centré dessus pour être centré sur l'amour en termes général. Et donc avec ce personnage de Cassandre en fait, et ouais, pour moi c'est une belle fresque sur la fraternité, une belle réflexion sur la mort, enfin voilà, ça me donne envie d'écrire des tonnes de trucs, vraiment ça m'inspire énormément ce film, notamment ouais, le rapport à la mort, je trouve assez passionnant. Malheureusement je peux pas révéler pourquoi parce que sinon ça spoilera un peu. Et ouais, c'est surtout une très belle fresque sur la fraternité. Je pense que j'aurais jamais vu ce thème traité avec autant de justesse. Voilà, je pense que si vous avez des frères et sœurs, ça peut que vous toucher. En particulier s'ils sont, enfin pas forcément s'ils sont plus jeunes que vous. Moi, je sais que j'ai un petit frère, donc enfin c'est un peu comme dans la situation du film. Même si je pense qu'ils ont moins d'années d'écart dans la vraie vie. Enfin, dans le film, que moi et mon frère, mais c'est ouais, quelque chose d'assez impressionnant, à quel point le film est juste, à quel point le film est réussi techniquement, et à quel point, tout simplement, c'est quelque chose d'assez formidable, voilà, et je ne peux que vous recommander Nos Cérémonies, qui, pour l'instant, est mon grand coup de cœur de ce festival, et je suis très content de l'avoir vu, et voilà, très curieux de savoir ce que va faire Simon Reed par la suite, et j'espère qu'il fera beaucoup d'entrées, voilà, et je pousserai à fond sur mes réseaux, sur ce podcast pour que les gens y aillent, ouais, allez voir Nos Cérémonies de Simon Reed. Voilà, on arrive enfin à la fin de cet épisode, de ce compte rendu du mercredi, du jour 2, voilà. Je tiens à dire que bah, pour l'instant ce festival est un plaisir, voilà, qu'on a pu voir des très bons films. Bon, ça avait plutôt mal commencé avec Les Mignons, certes, mais voilà, on a très bien redressé la barre après, et c'est allé crescendo en fait. Et voilà, c'est Nos Cérémonies, Atlantic Bar, c'est super, faut que vous y alliez quand ça sort. Après, c'est mon humble avis de spectateur, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais voir aujourd'hui ? C'est vrai que je dois retourner sur les Champs-Élysées parce que ça, j'ai pas pu enregistrer le podcast en revenant hier, donc je le fais. Voilà. Donc, il y aura The Unknown Country, il y aura The Integrity of Joseph Chambers et Quantum Cowboys qui a été primé à Annecy. Donc, c'est une journée cinéma américain. Encore une fois, je ne me suis renseigné sur aucun des films. On va voir. Voilà, c'est ça que j'aime avec, avec le festival, c'est ne m'être renseigné sur rien. Et de voir les films, tout simplement. Voilà, c'est je pense que c'est la meilleure façon de voir du cinéma. Et c'est comme ça que j'aime, en tout cas, regarder du cinéma. Et donc, ouais, enfin voilà, on va partir là-dessus. Et donc, je vous tiendrai bien évidemment au courant demain. Je tiens à m'excuser, d'ailleurs, parce que du coup, comme je fais l'enregistrement en journée, que je suis à côté d'une avenue, je crois qu'il y a beaucoup de sirènes. Il y a beaucoup de sirènes, j'ai essayé de m'arrêter au moment où il y avait des sirènes justement pour pas que ça s'entende trop dans le podcast pour vous. Mais bon, c'était pas... Je pense que parfois on va en entendre, donc je suis désolé si c'est le cas. Et puis bon bah le prochain enregistrement a priori seront nocturnes, donc en principe il n'y aura pas ce problème de sirène. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis à demain pour le débrief des films que j'aurai vu aujourd'hui.